Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Électron Libre, une émission animée par le docteur Luc Baudin sur Radio Mieux-Être. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche tous, c'est-à-dire l'alimentation. Comment peut-on définir une bonne alimentation? Quelle alimentation choisir? Comment procéder? Que faire? Cette alimentation est pourtant essentielle à notre santé. Elle est essentielle à notre santé parce que, grâce à elle, elle va nous apporter l'équilibre, elle va nous apporter la régénération de nos tissus, de nos organes, de notre corps, mais aussi la prévention des maladies. Alors voyons déjà, avant de voir notre alimentation d'aujourd'hui, faisons un petit retour en arrière, un petit retour historique en arrière, en sens que, il y a bien longtemps, l'être humain était un cueilleur, chasseur, pêcheur. Et donc ce cueilleur, chasseur, pêcheur, bougeait tous les jours, avait allé d'endroit en endroit, et donc se rassasiait, mangeait de ce qu'il trouvait en chemin. Donc là, un animal, ici un poisson, ailleurs quelques baies, et donc en fait son alimentation était peu variée, c'est-à-dire c'était en général une alimentation, il y avait un aliment par repas, donc rarement deux, ça pouvait être poisson et baie, mais généralement c'était soit des baies, soit un poisson, soit une viande, donc c'était toujours une alimentation, un aliment unique par repas pratiquement. Et puis, l'évolution de l'humanité se faisant, l'être humain a commencé par découvrir le feu. Découvrir le feu, ben, il a commencé à cuire les aliments. Et donc, c'était intéressant pour les manger, pour les ramollir et puis surtout pour les conserver. Ce faisant, ça a ouvert la porte aussi à un certain nombre de problèmes liés au phénomène de la combustion proprement dite, la déperdition d'un certain nombre de nutriments par cette combustion, cette chaleur, sans parler que la carbonisation est aussi un élément péjoratif. On sait par exemple que tout le brûlé qu'on retrouve au niveau de nos barbecues est cancérigène. Donc ça a été déjà la première étape qui a apporté un lot de problèmes. Et la deuxième étape, ça a été la sédentarisation de l'être humain. Cette sédentarisation de l'être humain a produit déjà des élevages. L'être humain s'est sédentarisé pour élever, mais aussi pour commencer à cultiver. Mais en cultivant la terre, évidemment, il a commencé à sélectionner un certain nombre de céréales, un certain nombre de plantes. Donc, il s'est retrouvé obligatoirement déjà avec une alimentation qui était moins variée qu'auparavant. D'autre part, cette sédentarisation a fait que ça a apporté un certain nombre de problèmes d'hygiène, parce que il est évident que autrefois, le fait de ces déplacements incessants, l'homme n'avait pas besoin de gérer les déchets, tandis que là, à partir du moment où il se sédentarisait, surtout si ça s'accompagnait d'élevage, eh bien évidemment, il avait fallu commencer à gérer ces déchets, et la non-gestion de ces déchets pendant un certain temps a été responsable de nombreuses maladies. Cette sédentarisation a amené évidemment une sélection au niveau de l'alimentation, comme je vous l'ai dit, mais aussi progressivement avec la cuisson également, les repas se sont diversifiés. C'est-à-dire qu'autrefois, comme je vous le disais, un repas se constituait sûrement d'une viande ou des baies qui avaient été ramassées par la tribu. Mais là, avec la sédentarisation, on a commencé à faire des repas qui étaient constitués de multiples aliments, une entrée avec de la salade, une viande, éventuellement un légume, éventuellement un fruit. Donc on se retrouvait avec déjà une multiplication d'aliments au cours d'un même repas, ce qui n'a pas aidé forcément la digestion, d'autant plus que les associations d'aliments ne sont pas toujours bonnes ou pas forcément favorables à leur digestion. Donc là encore, la sédentarisation, tout en apportant le progrès, tout en apportant justement une certaine sécurité par rapport grâce à l'élevage, grâce aux cultures, a aussi apporté une certaine modification essentielle de l'alimentation. Et ce changement au niveau de l'alimentation aurait été aussi à l'origine de nombre de maladies qui existaient soit auparavant, mais en nombre déjà beaucoup moins important. Et c'est pour ça qu'il est intéressant aussi de noter que, en fait, les maladies évoluent en fonction des sociétés et en fonction de leur évolution aussi. C'est-à-dire, c'est que si on reprend ne serait-ce que les maladies qui existaient en Occident au début du XIXe siècle, eh bien, en Europe, nous mourions de tuberculose et de syphilis. Et puis est arrivée après ça la Deuxième Guerre mondiale, et après la Deuxième Guerre mondiale sont apparus, se sont développés énormément tous les problèmes cardiovasculaires, parce que là l'alimentation a commencé à devenir beaucoup plus abondante, mais beaucoup riche, beaucoup plus riche en graisse, en particulier en graisse saturée, et donc en menant aussi leur lot de maladies, en particulier d'infarctus et d'angine de poitrine. Et puis avec le temps, la médecine ayant tiré le signal d'alarme, les maladies cardiovasculaires ont cessé de progresser, ont cessé d'augmenter, mais par contre ce furent les cancers qui prirent à ce moment-là le pas sur les maladies cardiovasculaires. Et aujourd'hui, nous pourrions même dire que ce sont les maladies neurologiques, les maladies neurodégénératives qui prennent le pas encore sur le cancer. Quelles sont-elles, ces maladies neurodégénératives ? Eh bien, nous pouvons parler comme ça de la maladie d'Alzheimer, on peut parler de la maladie de Parkinson, on peut parler d'un grand nombre de troubles neurologiques, qui, comme les scléroses en plaques également, qui touchent une population de plus en plus importante. Donc pour revenir à cette alimentation, vous comprenez que le changement alimentaire qui a été favorisé par l'évolution de l'espèce humaine, l'évolution de la société humaine, a apporté des éléments positifs autant pour le développement de la culture humaine, mais aussi a apporté des problèmes au niveau des changements au niveau alimentaire et donc des changements également au niveau des pathologies qu'avaient les humains. Donc aujourd'hui, voyant cela, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui ont commencé à s'y intéresser. D'abord, ce fut Dr Catherine Kousmine, une médecin russe qui a beaucoup travaillé en France, mais surtout en Suisse, et qui est remarquable parce qu'elle a vraiment mis en exergue l'importance d'avoir une alimentation bien sûr diversifiée, qui soit pas trop cuite, mais surtout qu'elle soit peu raffinée. Donc manger une alimentation le moins possible raffiné et surtout avec des huiles de première pression à froid et qui soient non polluées. Donc déjà, elle avait déjà tiré le signal d'alarme par rapport à ça. Et puis après ça est arrivé le docteur Seignalé qui nous a aussi indiqué l'importance des aliments, d'une alimentation qui est crue ou peu cuite. Justement parce que la cuisson était très péjorative aux aliments, et quand on cuisait beaucoup les aliments, en fin de compte, on ne retrouvait plus aucun nutriment intéressant, aucune vitamine, aucune chose comme ça qui était à l'intérieur et qui était importante pour la santé des personnes. Le docteur Seignalé aussi a mis en évidence l'importance, la fréquence que nous avons aujourd'hui des intolérances alimentaires. Intolérances alimentaires, en premier chef, ce sont les intolérances au laitage et les intolérances au gluten. Pour ma part, je ne suis pas le seul à le penser, mais pour ma part, je pense que cette apparition des intolérances laitage et gluten sont en grande partie liées à la mauvaise qualité des aliments que l'on nous propose. Parce qu'autrefois, nous avions très peu de ces intolérances. Et pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, nous avions une alimentation, le lait était directement tiré du pis de la vache, je dirais, était consommé pratiquement directement à la ferme. Et puis, nous avions aussi des céréales, en particulier du blé, qui étaient de meilleure qualité qu'aujourd'hui, parce que beaucoup plus diversifiées qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, personnellement, je pense que c'est l'excès de stérilisation, de pasteurisation aussi, qui sont en grande paquet, en grande partie liées à ces intolérances qui se multiplient et qui provoquent à ce moment-là des irritations, des inflammations des intestins qui vont d'abord provoquer des dégradations de la flore intestinale et puis aussi des irritations des mucus et des muqueuses intestinales. Donc ça provoque une irritation. Après ça, cette irritation va provoquer des hyperperméabilités au niveau de l'intestin, si bien que les polluants, les toxiques qui sont dans les aliments vont pouvoir rentrer facilement au niveau de l'organisme, provoquant à leur tour des maladies, des irritations, des troubles, parce que normalement, elles n'auraient jamais dû entrer dans cet organisme. La flore intestinale est aussi très importante parce que la mauvaise alimentation peut aussi provoquer des dégradations de la flore intestinale ou des modifications de l'équilibre de la flore intestinale. Et on a de plus en plus de preuves que ce déséquilibre est lié déjà, comme je vous l'ai expliqué, à toutes les maladies inflammatoires du côlon. Donc même si ce n'est pas la cause numéro 1, c'est au moins un grand facteur aggravant, comme dans la maladie de Crohn ou dans les rectocolites hémorragiques. Donc les flores intestinales sont vraiment très très importantes, et on a même la preuve aussi que les flores intestinales sont aussi responsables de troubles digestifs, mais aussi sont favorables aussi à la prise de poids et voire même à l'obésité. Donc en changeant des flores intestinales, on s'est aperçu qu'on pouvait permettre de faire maigrir certaines personnes et d'en faire grossir d'autres selon l'équilibre de la flore intestinale présente à l'intérieur de leur côlon et de leur intestin. Donc l'alimentation est un point donc très important. Donc le docteur Kousmine, le docteur Signalé nous ont tiré le signal d'alarme. Parallèlement à ça, est arrivé ce qu'on a appelé dans un premier temps le régime crétois et qu'on appelle maintenant plutôt le régime méditerranéen, qui a démontré tout son intérêt aujourd'hui. Ce régime crétois, ce régime méditerranéen vient se situer en complément du point de vue du docteur Kousmine et du docteur Seignalé, je dirais pour ma part. Le régime méditerranéen, en quoi consiste-t-il ? On s'est aperçu que les crétois, tout simplement, avaient une alimentation qui était particulière à l'époque. Maintenant, elle devient une généralité. Mais cette alimentation particulière faisait qu'on avait retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de maladies cardiovasculaires déjà dans cette petite île de Méditerranée. Donc évidemment, les chercheurs sont intéressés et donc se sont aperçus que cette particularité du faible nombre de maladies cardiovasculaires était en grande partie liée à l'alimentation que les Crétois suivaient. Alors en quoi consiste-t-elle ? Eh bien, tout simplement, la première chose, c'est déjà une alimentation qui est riche en légumes crus, en fruits, parce que tous ces aliments vont apporter beaucoup de nutriments, donc il faut vraiment les manger crus ou peu cuits. Et là, c'est une alimentation variée. Vous savez qu'on propose aujourd'hui, on dit souvent qu'il est important de prendre 4 ou 5, 6 fruits ou légumes différents par jour, parce que ces différents fruits et légumes vont apporter des nutriments différents qui sont indispensables dans notre organisme. Ce sont les fruits et légumes qui vont apporter beaucoup de potassium, qui vont aussi permettre d'équilibrer la tension. Ces fruits et légumes vont apporter aussi beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments, etc., qui sont indispensables à notre organisme parce que notre organisme n'est pas capable de les manger. Après ça, donc, vous avez les viandes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les viandes rouges ne sont pas indispensables et vont avoir une fâcheuse tendance à irriter, à enflammer, voire énerver les personnes. Par contre, tout ce qui est viande blanche sera plutôt à favoriser. Ce sont le veau, ce sont les poulets, le poisson aussi qui est aussi à favoriser, sans parler des laitages. Mais là encore, peu de laitages et plutôt préférer les laitages de chèvre aux laitages de vache. Parce que le problème, c'est que les laitages contiennent aussi énormément de polluants selon ce que la vache a mangé. Et moi, vous savez, j'ai travaillé beaucoup en Normandie. Et j'expliquais à mes Normands que l'alimentation, que les laitages nous apportent des choses agréables à manger, comme en particulier les fromages. On avait le camembert, le livaro et tous ces fromages qui sont merveilleux. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les laitages ne sont pas obligatoires à manger pour notre santé. Alors évidemment, je choquais un petit peu mes patients en disant ça, mais je leur expliquais une petite chose qui est amusante et pourtant pleine de bon sens. Je leur disais, vous voyez, regardez un petit peu toutes ces vaches qui sont dans nos champs, tout autour de nous. Et donc ces vaches, elles mangent de l'herbe toute l'année. Elles nous produisent des litres et des litres de lait plein de calcium. Elles ne sont pas décalcifiées et pourtant elles ne boivent pas de lait. Et donc là, mes amis normands me regardaient avec des grands yeux d'étonnement, et pourtant, ils comprenaient que mon raisonnement était tout à fait juste, et ce qui montrait bien que les calciums dont avait besoin la vache pour fabriquer son lait ou pour lutter contre sa décalcification, eh bien, tout simplement, elle l'a trouvé dans les végétaux, les crudités qu'elle pouvait manger quotidiennement. Donc, c'est surtout ce calcium-là qui est important. Tout comme au niveau de la viande, nous avons besoin de protéines. Nous avons besoin de protéines, donc les protéines, on va les retrouver dans la viande. Viande rouge, viande blanche, laitage, et puis dans certains légumes, en particulier les céréales et les légumineuses. Alors, ce qui est intéressant aussi à repérer, c'est que selon votre alimentation, c'est bien l'alimentation va pouvoir aussi agir sur votre psychisme. Ah, c'est incroyable, me direz-vous, l'alimentation qui peut agir sur votre psychisme. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'en fait, si vous avez une alimentation qui est beaucoup tournée vers les viandes, et particulièrement les viandes rouges, ça va avoir tendance à favoriser la fabrication d'un certain nombre de neurotransmetteurs de style adrénaline, cortisol, noradrénaline, qui sont des hormones de stress, des hormones d'action, des hormones d'activité, donc qui sont certes utiles, mais qui peuvent aussi tomber dans une agressivité si on va dans les excès. Inversement, une alimentation qui va être essentiellement tournée vers le végétarisme, éventuellement accompagnée d'un petit peu de laitage ou d'œufs, eh bien, à ce moment-là, là, ça va avoir plutôt tendance à favoriser la fabrication de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui, lui, va favoriser la sérénité, le calme et la détente. Donc, vous comprenez que selon la tendance que vous allez avoir au niveau de votre alimentation, selon ce que vous allez avoir envie de manger, eh bien, ça va retentir là encore au niveau de votre psychisme. Donc, moi, je ne suis pas là pour prêcher le végétarisme ou la viande. Je dirais qu'un juste équilibre se fait, un petit peu comme ce qu'ils font et comme il se passe avec... En Crète à l'époque, ils avaient une alimentation qui était riche en légumes, en crudités, en fruits, et ils mangeaient aussi un petit peu de viande blanche ou de poisson, et quand ça leur faisait plaisir, bah, là ça faisait plaisir, et quand ils voulaient se faire plaisir, bah, ils pouvaient manger un petit peu de viande rouge aussi, ça leur disait. Le fromage était surtout un fromage à base de chèvre, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient beaucoup, beaucoup aussi d'acides gras, mais d'acides gras insaturés de type oméga-3 et oméga-6. Donc là, ils mangeaient certaines plantes qui leur apportaient les oméga-3, ainsi que le poisson, et beaucoup d'huile d'olive qui était aussi riche en oméga-6. Donc les oméga-3 et les oméga-6 étaient des aliments importants aussi pour notre équilibre, pour notre santé. Alors pour les avoir, il suffit là encore de manger des poissons. Alors il vaudra mieux manger des poissons de haute mer pour éviter leur pollution, surtout au mercure. Donc il faudra aussi favoriser les huiles de type colza, de type... des huiles de noix et les huiles d'olive qui vont vous apporter oméga-3, oméga-6, voire oméga-9, et vous pouvez faire des petits mélanges de tout ce petit monde-là, ou alors de faire des alternances entre ces trois huiles. Parce que comme ça, vous allez avoir un apport en oméga-3, en oméga-6, en oméga-9. Ces acides gras sont très importants pour l'équilibre de la personne, et parce qu'elles vont équilibrer au niveau des prostaglandines, qui sont des petits transmetteurs qui régulent beaucoup l'immunité, qui régulent les phénomènes inflammatoires, ils vont réguler aussi les phénomènes allergiques, donc c'est des aliments qui sont très importants dans notre santé, et aussi nos membranes cellulaires sont faites beaucoup de graisse, de ces acides gras, et si vous avez une alimentation qui est riche dans ces oméga-3, donc apportés par les huiles et puis les poissons, eh bien ça vous donnera des cellules qui seront beaucoup plus, les membranes cellulaires qui seront plus souples et qui permettront de passer beaucoup plus les informations entre cellules, et donc d'avoir une bonne harmonie au sein de l'organisme. Donc, par contre, les graisses saturées, vous les retrouverez surtout avec le beurre cuit, vous retrouverez ça avec les viandes rouges cuites, donc ça vous apportera des huiles saturées, et ces huiles saturées auront tendance à durcir les membranes cellulaires. Alors, si vous voulez, il ne faut pas être exclusif, parce que trop de polyinsaturés ou trop d'insaturés, c'est mauvais pour la santé. Il faut trouver un juste équilibre entre saturé et insaturé. Donc beaucoup de polyinsaturés, mais aussi un petit peu d'insaturé est important pour l'équilibre de l'organisme. Donc je vous ai dit, des légumes cuits, des crudités, des fruits, de la viande, plutôt de la viande blanche, poisson, un petit peu de laitage, mais préférez plutôt les laitages à base de chèvre, de brebis. Et puis après ça, donc vous pouvez utiliser beaucoup les oméga 3, les oméga 6 avec les huiles d'olive, de noix et de colza et les poissons. Donc, il y avait aussi une petite consommation de thé qui peut être intéressante, ou de vin, parce que là, on raconte que le vin, comme le thé vert, apporte beaucoup de polyphénols, qui sont très importants aussi pour la santé, donc un petit peu de consommation de vin, ou moi, je préfère plutôt le thé, parce que le vin apporte aussi un certain nombre de tanins, de pesticides, et donc, qu'on en utilise un petit peu de temps en temps, au moment des fêtes, c'est vrai, mais je ne suis pas très chaud pour en utiliser, pour en favoriser la consommation quotidienne. Voilà, donc le thé vert est un élément intéressant et a montré beaucoup d'effets importants sur la prévention des maladies. Donc voilà, c'est grosso modo l'importance de ces repas. Donc le régime méditerranéen a prouvé aujourd'hui son intérêt, en particulier dans tout ce qui est prévention des maladies cardiovasculaires, prévention de la maladie de Parkinson, prévention également des cancers, et y compris au cours de ces maladies, il est intéressant de favoriser cette alimentation. Donc là encore, il est logique d'avoir une alimentation équilibrée le matin, bien le midi, et plutôt légère le soir. Moi, je vous conseille également de favoriser beaucoup, beaucoup une alimentation biologique, parce que, bah, évidemment, vous allez vous retrouver avec beaucoup moins de polluants à l'intérieur, une alimentation des nutriments qui vont être plus concentrés. Donc, biologique, plutôt de saison, plutôt également de pays, parce que là encore, nous sommes faits pour vivre et pour nous alimenter dans ce pays. Et puis, que puis-je vous dire encore, ce qui est très important également, c'est de trouver, de bien respecter les heures et de bien respecter les moments des repas. Donc l'important, c'est de se positionner toujours dans un repas, dans un endroit calme, dans un endroit détendant, de prendre le temps aussi de marcher, manger, même si c'est un sandwich, parce que vous êtes au bureau, mais prenez simplement le temps de manger, prenez le temps de vous asseoir et de mâcher correctement chaque bouchée. Parce que là, c'est aussi important, parler de sujets qui sont agréables, de sujets qui sont gais. Ne commencez pas à parler des sujets qui fâchent ou des problèmes que vous rencontrez au niveau du travail ou au niveau de la maison. Prenez le temps du repas doit être un moment convivial, un moment agréable. Et c'est pour ça que je suis un peu choqué, scandalisé par le fait de regarder, par exemple, le journal télévisé au cours des repas, parce que d'une part, ça coupe la discussion au sein de la famille, et puis en plus, c'est que, comme toutes les nouvelles sont toujours très tristes, c'est évident que ça ne favorise pas non plus la digestion, votre estomac se serre, la vésicule se contracte, et tout ça fait que vous digérez mal, et ce n'est pas favorable à votre digestion. Donc ça, pensez à tous ces éléments-là, parce qu'il est autant important, la manière de manger est aussi importante de ce que vous avez dans votre assiette. Et aussi, on peut aller encore un petit peu plus loin, dans le sens qu'il y avait aussi le régime Okinawa qui a été mis en exergue ces dernières années. Alors le régime Okinawa est intéressant parce qu'il nous a montré un point que nous autres occidentaux, nous avons tendance à négliger, c'est la notion de la quantité alimentaire. Or, dans nos pays occidentaux, nous avons tendance à manger trop en quantité. En quantité, ça veut dire que, là encore, plus on va manger d'une manière importante, et plus notre estomac va se mettre à se dilater, et plus il va se mettre à se dilater, moins on va avoir de sensations de satiété, c'est-à-dire qu'il va falloir manger beaucoup pour avoir l'impression d'avoir l'estomac plein, et ça devient un véritable cercle vicieux, parce que plus on va manger beaucoup, plus l'estomac se dilate, plus il se dilate, plus il va falloir manger beaucoup, et plus il va falloir manger beaucoup, plus on va moins avoir la sensation de satiété. Donc ça devient un véritable cercle vicieux, donc il faut faire attention, à contrario, c'est-à-dire aperçu que les gens qui vivaient vieux et en bonne santé, eh bien, tout simplement, c'était ceux qui avaient tendance à manger léger, à manger petitement, et n'hésitaient pas à faire des petites cures, des petites périodes de jeûne ou de monodiète. Mais ça, c'est un élément très important, et on sait pourquoi aussi que c'est mauvais de manger beaucoup. Parce que mauvais de manger beaucoup, parce que bien sûr, ça va apporter beaucoup de nutriments, beaucoup de raies d'aliments riches, et donc qui va favoriser la prise de poids. C'est le premier point. Mais le deuxième point qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que ça va nécessiter un effort plus important à votre organisme pour digérer tous ces aliments que vous mangez. Et comme ça nécessite un effort plus important à l'organisme, il va s'user plus précocement. Et donc, comme il s'use plus précocement, et bien à ce moment-là, là, ça peut favoriser des maladies, voire même des mortalités plus importantes. Nous savons, par exemple, que les personnes qui sont en surpoids ont une espérance de vie largement plus réduite qu'une personne qui est en poids normal. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point important. Un dernier point au niveau alimentaire sur lequel je voudrais insister, c'est sur l'hydratation, l'eau. Il est très important de boire beaucoup d'eau. Alors, beaucoup d'eau, ça veut dire que le vin, les jus de fruits, le thé même, quelque part, n'apporte pas, apporte du liquide. Il y a de l'eau dedans, nous sommes bien d'accord. Mais ça ne remplacera pas un bon verre d'eau. Donc, l'eau est très, très importante. L'eau est très importante à boire. Et là, à boire, il faudra plutôt la favoriser à boire entre les repas qu'au cours du repas. Non pas qu'il ne faut pas boire pendant le repas, c'est pas ça. C'est qu'il ne faut pas boire en grosse quantité pendant le repas, parce que plus vous boirez dans le repas, plus vous allez augmenter le bol alimentaire. Ça veut dire que les acides, les enzymes qu'on va sécréter au niveau de l'estomac et du pancréas vont être dilués dans cette eau, et donc la digestion va être plus difficile, va être plus lente, va être plus... Par contre, si on ne boit pas trop pendant le repas, la dilution va être moins importante, et donc la digestion va se faire d'une manière plus importante, plus efficace. Donc il faut plutôt boire entre les repas qu'au cours du repas. Mais l'hydratation est extrêmement importante. Moi, j'aurais tendance à favoriser largement les eaux de source plutôt que les eaux minérales. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les eaux de source sont pauvres évidemment en minéraux, mais le problème des minéraux, des eaux minéralisées, c'est que les minéraux ne sont plus ionisés au bout d'un certain nombre de jours. C'est-à-dire, c'est qu'entre le moment où ils sont extraits de la source et le moment où vous les consommez, il peut se passer évidemment plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Or, en l'espace de quelques semaines, la ionisation de ces minéraux disparaissent, et donc tous les bienfaits qu'ils pourraient vous apporter disparaissent alors avec eux. Et donc, moi, je préfère utiliser des eaux de source qui sont faibles en minéraux, quitte à prendre en plus les minéraux, vous les trouverez à ce moment-là tout à fait facilement au niveau des légumes, des fruits et des crudités dont je vous parlais tout à l'heure. Là, de même, les crudités, soit je vous conseillerais surtout de les prendre entre les repas, les fruits, plutôt, je conseillerais plutôt les crudités, vous pouvez les prendre au cours du repas, au contraire, mais les fruits, prenez-les plutôt entre les repas. Ça peut être justement votre petit 10 heures, ça peut être aussi votre petit 4 heures. Voilà, ça, vous les digérerez mieux, l'organisme prendra mieux à ce moment-là les nutriments qui sont à l'intérieur, et donc ce sera beaucoup plus utile pour lui. Et puis, en les mangeant à ce moment-là, vous allez avoir vraiment un bénéfice important, et ça vous évitera de tomber dans les sucreries ou dans les choses comme ça. Je vous ai pas parlé des sucreries, ni de l'aspartame, ni de tout ça. Moi, je vous conseille d'en consommer le moins possible. L'aspartame, moi, je vous conseillerais même de le supprimer. Les sucreries, moi, vous savez, j'avais fait un petit... Je m'étais aperçu que quand je prenais de la confiture et du sucre le matin dans mon petit déjeuner, eh bien, j'avais souvent des coups de barre sur le coup de 10 heures. Et au bout de quelques temps, j'ai supprimé tout simplement le sucre dans mon café et j'ai supprimé la confiture pour favoriser plutôt le miel. Et en fait, je me suis aperçu à ce moment-là que sans prendre de tartines en plein en plus, sans changer quoi que ce soit d'autre, eh bien, je n'avais plus ces coups de barre et je tenais jusqu'au repas suivant. Parce que le sucre rapide, tous les sucres rapides, toutes les sucreries ont tendance à justement nous donner des fringales rapides. Donc si vous mangez des sucreries, des sucres, des confitures, etc., qui sont sympathiques à manger, mais d'un autre côté, ça va avoir tendance à vous donner des fringales plus fréquentes. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais en manger, ça fait partie des plaisirs de la vie, mais il faut aussi savoir éviter d'en prendre tous les matins. Si vous en prenez, par exemple, le matin au petit déjeuner, ne vous étonnez pas d'avoir un petit coup de barre sur le coup de 10 heures du matin, mais le problème du coup de barre sur le 10 heures du matin, vous risquez de vous attirer de nouveau, manger un petit gâteau, un petit chose comme ça, et là, vous êtes sans arrêt, vous vous retrouvez sans arrêt à grignoter, et comme de par hasard, vous allez vous retrouver à prendre du poids. Pour ce qui est de l'alcool, bah, c'était la même chose, c'est que je vous ai parlé un petit peu du vin. Le vin qui est sympathique à boire, mais je pense qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude. Ça fait partie des plaisirs de la vie, ça fait partie des bons repas, ça fait partie de la convivialité, mais à mon sens, ça ne fait pas partie de la vie quotidienne. Enfin, et je ne suis plus dans l'alimentation, mais dans le deuxième plan qui est important, c'est la quantité alimentaire doit être proportionnelle aussi à votre activité physique. Il est évident que si vous avez une vie de bureau, une vie sédentaire et que vous n'avez pas à manger la même quantité qu'une personne qui est bûcheron ou qui travaille dans le bâtiment, etc. Notre aliment, ou si vous faites quand vous faites un jogging, quand vous faites du sport, bah c'est normal que vous ayez une alimentation peut-être un petit peu plus importante que les personnes qui sont sédentaires et qui ne. Parce que toute l'alimentation à ce moment-là va favoriser la formation de graisse, alors que quand vous faites du mouvement, quand vous bougez, vous avez fabriqué peut-être du poids également, mais en muscle, ce qui n'est pas du tout la même chose pour votre organisme. Donc tout est une question de bon sens, vous l'avez compris. Le régime méditerranéen a été vraiment une révolution, et ce qui est génial, c'est que pour une fois, tous les médecins sont d'accord pour dire que cette alimentation est importante et ne permet l'équilibre de tous. Donc, bah écoutez, profitons de tout ça, et n'hésitez pas aussi de faire de temps en temps des petites périodes de jeûne ou de monodiète, c'est-à-dire de faire une journée ou 2 jours ou 3 jours en ne buvant que de l'eau, que un bouillon de légumes ou un petit peu de raisin, si votre santé bien sûr le permet. Mais là, ces périodes de jeûne d'une journée ou de 2 jours doivent toujours s'accompagner de repos, de calme. Ce n'est pas des périodes qu'il faut faire, à mon sens, quand vous travaillez. Il faut vraiment en profiter à ce moment-là du repos, du calme, de faire un petit peu des marches tranquilles, de la méditation, de faire les lectures. Profitez un petit peu de ces modes, de ces jours-là pour refaire le point dans votre vie. C'est pas des choses à faire en même temps que votre activité habituelle. Voilà mes amis, tout ce que je voulais vous dire sur l'alimentation, la bonne alimentation, l'équilibre de l'alimentation qui va vous apporter, je l'espère à tous, une belle santé. Une belle journée en attendant et à très bientôt. Au revoir.